gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall.
Radio Canut présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Je suis chez moi. Là est mon monde. Guillaume entre. La pièce était grande. Il y a dans un coin de la pièce une roulotte à cheval. Dans un autre, des tapis à terre avec des coussins de toutes les couleurs en soie vive. Avec une table basse et un ensemble de pium. Dans un autre coin, se trouve une barque de pêcheur où un lit est fait dedans. À côté de la barque, contre le mur, il y a des colonnes en plâtre et dessinée sur le mur une vue de la Grèce. Puis, dans un autre coin, se trouve une bibliothèque et une armoire. Guillaume est surpris. Jean sourit et lui dit « J'ai voulu reconstituer mon univers. La roulotte, j'aime les gens du voyage et je couche dedans. L'Orient, l'opium, la Grèce, les livres. Voilà tout ce que j'aime. Allons nous asseoir. » Et il le mène vers l'Orient. Ils s'assoivent à terre sur des coussins. Jean dit je rêve de paradis perdu, de monde insouciant. Je ne supporte pas ce monde. J'aurais aimé vivre une autre époque où le réel se vauchait des réels, où les dieux faisaient partie de la vie quotidienne, où les gens vivaient avec fougue leur vie, leurs amours. La Grèce, le monde antique, et aussi le Moyen-Âge. Tristan et Iseult, quel amour! Maintenant, je ne pense qu'à l'argent, au pouvoir, le beau est mort. La littérature, l'écriture mourra aussi un jour, mais ce jour, ce sera la fin de l'esprit des hommes. Les hommes seront mortes. Je ne peux le supporter. Il prépare de l'opium. Vous en voulez ? Guillaume rougit. Essayez donc. Oui ? Il en prépare deux. Donne une pipe à Guillaume. Guillaume tousse un peu. Il ne trouve pas ça pas très bon. Il sent de suite un mal de tête, les yeux qu'il pique. Mais petit à petit, cela va mieux. Jean se lève. Et va ouvrir l'armoire. Quitte sa veste pour prendre une robe de chambre décorée à l'orientale. Et prend un petit livre mince. Puis retourne s'asseoir à côté de Guillaume. Jean ouvre le petit livre. Ma mère a fait éditer avec sa cassette personnelle mes meilleurs poèmes dans ce petit livre à 100 exemplaires. Et il lit au hasard. Le soir tombe dans les ténèbres, se couche un monde féerique que seuls les hommes simples peuvent voir. Guillaume y voit trouble. Les paroles de Jean lui paraissent incompréhensibles. Puis il se met à rire, 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 rire. Il ne sait pourquoi, mais il rit, il rit, il rit. Et en même temps, il se sent bien, bien, très bien. Il se réveille, et la première des choses qu'il voit, ces visages de Jean penchés sur lui. Il se sent brumeux. Jean se penche. Il prend son visage entre les deux mains et l'embrasse sur les lèvres. En l'embrassant, il lui verse dans la bouche de la fumée d'opium. Guillaume fléchit. Jamais un baiser ne lui a fait autant effet. Jean lui dit, « Tu vas bien ?» Guillaume ne peut parler. Il est sous l'effet du baiser. Jean lui lâche le visage et lui dit, « Thé ou café ?»« Café ? Quelle heure est-il ? » ?»« Tard. Tu as beaucoup dormi. » Guillaume s'inquiète. Mes parents vont être inquiets. Jean se lève. Il est toujours avec sa robe de chambre.
« Ta famille t'interdit de sortir à ton âge ?»«
Oui et non, c'est compliqué. »«
Je vois. Tu me diras ça plus tard. »
Et il sort de la pièce. Guillaume se lève. Il est tout courbaturé, à froid, la lampe pâteuse et les tempes lui font mal. Malgré tout ça, il se sent bien. Il aime bien Jean. À côté des pantins de son monde, c'est un original qui s'est créé un monde à lui. Le baiser ne l'a pas choqué. Venant d'un autre, certainement, mais pas de lui. Jean revient avec un plateau, le petit déjeuner dessus. Il le met à terre. Et dit, asseyons-nous. Et s'assoit. Puis sert le café. Tu écris, toi?
Non, pas vraiment. Je gribouille des petites choses.
Il faudra me montrer ça.
Guillaume rougit. Jean continue.
J'aime m'occuper des jeunes pour les éduquer. Avec moi, tu peux apprendre la littérature, la peinture, la comédie, comme tu veux. Je connais tout cela, et même la danse.
Après le petit déjeuner, ils se sont séparés.
Reviens me voir.
Oui. Et Jean l'embrasse sur les lèvres. Guillaume entre chez ses parents à 14h. Dès qu'il entre, le père le pousse dans son bureau. Et lui demande,
« Où étais-tu ? Tu n'as pas honte de partir comme ça ? Nous sommes fait du souci. Allons, réponds. »
« J'étais chez Jean Lecoq. »«
Quoi ? Chez cet excentrique ? » ?»«
Oui. » »«
Il ne faut plus le revoir. Ta mère a fait une très grande erreur en l'invitant. » Je ne veux plus que tu le revoies, il dévergonde la jeunesse avec ses poèmes et ses goûts bizarres. Promets-moi de ne plus le revoir.
Je lui ai promis de le revoir et puis Il n'est pas méchant, simplement un peu poète. Il écrit de très beaux poèmes, il me les a lus.
Je vois, tu es déjà sous son charme. Dans 2 mois, tu passeras ton temps enfermé dans ta chambre, à fumer, boire, écrire. Écrire des poèmes.
Tout à coup, il pense à ce qu'il est, lui, l'assassin, avec ses idées. Il se dit, puisqu'il veut la liberté sans contrainte pour tous, il la faut aussi pour sa famille. Il lit tout haut.
« J'ai pas le droit de t'interdire quoi que ce soit. Tu dois être libre. Si ça te change de perdre ton temps avec cet excentrique, fais-le. Allez, va prendre un bain. Tu es tout bizarre. »
Guillaume sort du bureau de son père. Il est surpris parce que son père vient de lui dire, d'un côté, la morale et l'interdiction, de l'autre, la liberté. Il se dit, puisque je suis libre, autant en profiter. Guillaume va 2 fois par semaine chez Jean. Lorsque la mère de Jean est à son hôtel, Guillaume passe par une entrée dérobée. Jean le reçoit dans sa chambre en robe de chambre orientale et l'embrasse sur les lèvres. Et remplit sa bouche d'opium. Le baiser et l'opium étourdit Guillaume. Lorsque des semaines il ne peut venir voir Jean, il est comme en manque de baiser comme d'opium. C'est confus en lui. Les 2 choses sont mélangées et ne peuvent se dissocier. Ils passent leur temps à fumer, manger des gâteaux, boire du café et à lire chacun leur œuvre. Guillaume a beaucoup d'excitation à oser montrer ses écrits. Jean les a trouvés pas mal et a décidé de le faire travailler. Jean est sévère et il veut de l'organisation et de l'originalité dans les œuvres. Il force à travailler Guillaume des heures entières jusqu'à ce qu'il ait écrit quelque chose de bien. Guillaume a envie certains jours de se rebeller, mais il ne peut pas. Il ne peut rompre avec les baisers et l'opium de Jean. Il aime lorsque Jean lui caresse le visage avec ses longues mains osseuses. Elles sont douces, douces. Alors qu'ils sont tous deux dans la brume de l'opium,
Jean a déshabillé Guillaume, qui est couché à terre sur les coussins. Guillaume s'est laissé faire. C'est comme s'il avait penché sur lui un faune maigre avec des mains blanches et longues, des yeux bleus profonds. Dans la brume de l'opium, il ne voit que ça. Il ne voit que le faune qui se baisse sur met sa tête entre ses jambes et lui suce le sexe. Il est nu et couché à ses pieds. Jean qui dort. Guillaume se rendort. Se réveille, il est nu et couché à ses pieds, Jean qui dort. Guillaume se rendort. Se rendort encore une fois, se lève, s'habille et se rendort. Guillaume est bien, son univers, ce sont ses murs, cette fumée, les caresses, les baisers de Jean et tout ce qui lui apprend. Il n'a plus envie de rentrer chez lui, de voir sa famille, sa chambre. Tout cela lui semble étranger. Il a trouvé son monde et son mentor. Il n'a plus à traîner dans les rues, à la recherche de plaisirs éphémères, de désirs interdits. Il se sent libre. Les mois passent. Son père ne lui pose plus de questions. Son père se dit,
s'il veut se noyer dans la débauche, ça le regarde. Je m'en moque.
Sa mère ne lui dit rien, puisque le père ne dit rien. Au dîner, Guillaume dit à sa famille, « Je vais partir quelques jours en Bretagne, dans un petit village avec Jean Lecoq. Nous ferons de longues marches sur la plage et écrirons. » Sa mère dit, « Et tes études ?» Le père prend la main de sa femme. Guillaume dit, « J'ai l'intention d'arrêter. »
« Et que veux-tu faire plus tard ?»
demande la mère. « Je veux écrire. » La mère étouffe. Et dit,
un artiste dans notre famille, ça ne s'est jamais vu. Comment feras-tu pour vivre?
Je gagnerai ma vie grâce à mes livres. Elle hausse ses épaules et dit « Aucun artiste ne gagne sa vie. Ils sont tous pauvres, même les plus grands. Tu vas vivre une vie de bohémien. De bohème dans un grenier sans chauffage, mon pauvre petit. À 25 ans, tu mourras de je ne sais quelle maladie de pauvre. Et entre-temps, tu deviendras républicain ou anarchiste. Tu voudras changer le monde en voulant mettre des bombes de partout. Tu mendieras ton pain. Tu passeras ton temps dans les cafés à fumer, en fumer, à discuter. Voilà ton avenir, mon enfant. Mon Dieu. Mon Dieu. Quel avenir.
Guillaume a honte, mais lui dit « Ce que vous m'avez dit là, maman, c'est un résumé d'un roman bon marché. Je vous promets que ma vie sera décente. Jean Lecoq vit très bien dans un hôtel et il a de l'argent. » Sa mère hausse ses épaules lui dit
« Sans sa mère, il serait à la rue. »
« C'est vous le qui dites, mère. » La mère veut répondre, mais son mari lui presse le bras et dit
« Laissez, ça lui chante de mener cette vie, qu'il aille avec son Lecoq. »
La mère hausse ses épaules et de colère dit
« Vous défendez ces folies maintenant. Vous mettez deux, tous les deux contre moi. Vous moquez qui gâche sa vie. Eh bien, faites ce que vous voulez. »
Le lendemain, Guillaume et Jean partent pour la Bretagne en diligence. Nous sommes en juin, il fait beau, ils sont heureux. Après plusieurs jours, car ils ont fait des détours, Jean voulait montrer certains lieux. Ils sont arrivés. L'hôtel est confortable. Ils ont demandé des chambres contiguës avec balcon et un salon entre les deux. La chambre de Guillaume n'est pas occupée le matin. Avant la venue de la femme de chambre pour donner le change, il fronce son lit. Ils dorment ensemble, dans la même chambre et dans le même lit. Cela s'est fait simplement et dès la première nuit. Jean et Guillaume étaient dans la chambre de Jean, allongés sur le lit à lire. Guillaume s'est endormi sur le lit et depuis il se couche chez Jean. La nuit, Jean le caresse, l'embrasse et le suce. Passe sa soirée ainsi, à fumer de l'opium. Pour ne pas empester la chambre, il ouvre les fenêtres, se lève tard, prennent café, alcool, mangent gâteau et du poisson et écrivent ensemble. Ils sont heureux ainsi. Dans la journée, les baisers de Jean sont parfumés d'opium. mais Guillaume n'en prend pas. N'en prend que le soir. Ce qu'ils écrivent sous l'influence de l'opium, c'est plein de visions étranges. C'est parfois beau, mais la plupart du temps, illisible. Mais l'opium leur donne la fièvre de la création. Ils se sentent impossibles de s'en passer. Les jours passent et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne sortent pas, mangent presque plus, maigrissent, ont les yeux rouges, mal à la tête, humeur changeante. Quelquefois, ils ont l'impression d'avoir la fièvre et le délire. La bouche pâteuse, tout ce qu'ils mangent ont le goût de l'opium et manger leur donne la nausée. Le plaisir sexuel ne se ressent plus que par une forte dose de fumerie. Guillaume maigrit, les yeux fiévreux, a des brûlures d'estomac, vomit constamment. Jean essaye de le soigner en lui mettant de la glace sur le ventre et lui donne de la tisane. Malgré cet enfer qu'il ne peut ressentir tel quel, Guillaume se sent bien, libre. Il passe des heures la nuit avec Jean dans le lit à parler. Tu savais comme j'étais malheureux avant. Je passais mon temps à marcher dans la rue, à rechercher le plaisir. Je désirais de toutes mes forces prendre dans mes bras ces beaux jeunes gens que je rencontrais. En plus, j'étais malheureusement attiré par les garçons. Je n'osais pas les aborder. Lorsque je le faisais, j'étais tellement gauche que je me cognais. Un jour, j'ai rencontré un jeune dans la rue qui voulait bien aller avec moi. Nous sommes abordés mutuellement, ne sachant où aller, se montrer dans une allée. Et juste au moment où j'y allais, nous avons été surpris par la concierge. Il a pu se sauver, mais moi non. Commissariat, durant toute une journée, tu te rends compte? Et mon père aussi, en prime. C'était horrible. Et les jours passent, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Quand ils en ont la force, ils écrivent des pages et des pages de poèmes issus de leurs fantasmes. La plupart du temps, et de plus en plus longtemps, ils restent allongés, ne mangent presque plus, leur aliment ont l'odeur de l'opium. La direction de l'hôtel s'inquiète de ces gens qui ne sortent jamais, mangent presque pas, et il y sort de leur chambre une odeur étrange. Un jour, n'en pouvant plus, le directeur de l'hôtel, un petit homme chauve, frappe à la porte de leur chambre. Jean et Guillaume le reçoivent.
« Messieurs, je suis vraiment navré de vous dire cela, mais des gens vont venir, c'est la raison. Je ne peux pas vous garder. Vous empestez l'hôtel avec votre fumée et votre façon de vivre ne me convient pas. Je ne veux pas d'histoire. Si vous pouviez nous quitter demain matin, nous vous serions très reconnaissants. »
Jean lui dit, « Si vous le souhaitez, mais nous ne faisons rien de mal, mon ami et moi écrivions. »
« Je comprends, monsieur, vous êtes des artistes et vous vivez comme des artistes. Ce qui est bon à Paris ne peut convenir dans une petite ville, vous comprenez ?»«
Oui, nous partirons demain. »
Le directeur est soulagé.
« Je vous remercie, messieurs. »
Et il sort. Jean dit à Guillaume,
« Nous sommes rejetés par la France profonde. Paris nous attend. »
Le lendemain matin, ils font leur bagage péniblement. Ils n'ont pas de force, et comme ils sont agents d'opium, ils sont en manque, mais ne peuvent en prendre, puisqu'ils vont voyager. Une fois qu'ils ont rendu la chambre, le directeur a fait désinfecter la pièce. Le voyage en diligence est très pénible. Ils ne supportent pas les secousses, sont de mauvaise humeur par manque. Ils ont des nausées aussi. Arrivé à Paris, Jean entre chez lui. Il a pris les écrits de Guillaume et Guillaume entre chez ses parents. Il arrive à 21h chez eux. La famille est réunie au salon. Guillaume va vers eux. Les vêtements sales, les cheveux longs filassent, le visage maigri, le sourire bête, les yeux rougis. Il est très maigre. Une vraie loque. Sa mère, qui est assise, pousse un cri en le voyant. Son père met la main sur l'épaule de sa femme. Il se dit
« Voilà la déchéance de mon fils, qui n'est même pas capable de vivre ses instincts sans se détruire. Pauvre imbécile. Regarde-moi, moi qui ai tué. Comme je me porte bien, comme je suis digne. Toi, tu es déjà mort et tu n'as rien fait. »
Il se lève et va vers son fils. Et lui dit,
« Tu es de retour. J'en suis heureux. Va prendre un bain, habille-toi correctement et viens nous rejoindre. Tu parles de ton voyage et tu nous diras ce que tu comptes faire maintenant. »
Le fils se retire comme un automate. Et entre dans la salle de bain. Une heure plus tard, il revient propre, mais toujours aussi maigre et l'air hagard. En plus, il est énervé par le manque de drogue. On le fait asseoir. Et lui apporte un bol de bouillon. Les mains tremblantes, il prend le bol, avale une cuillère, pâlit, lâche le bol et vomit. La mère se précipite affolée. Le père sonne un domestique pour ramasser les débris et nettoyer. Guillaume pleure. La mère à ses pieds lui dit,
mais qu'as-tu mon petit? Mais qu'as-tu? Tu es malade?
Le fils tremble et se lève.
Il a des douleurs horribles au ventre qui le font se plier.
Il voit des bêtes autour de lui et tombe.
Les parents se précipitent vers lui.
de douleur. Il crie de douleur. On le mène dans sa chambre pour le coucher. Ils ont appelé le médecin de famille, un vieil homme à barbiche blanche. Après l'avoir ausculté, il dit « Je vais donner pour dormir. Il se sentira mieux demain. » La mère lui demande « Qu'a-t-il, docteur ?»« Je ne peux pas me prononcer. Un empoisonnement par accoutumance ou une fatigue nerveuse. » Le père sent que le médecin ment. Il l'emmène dans son cabinet. Et lui demande « Qu'a-t-il exactement ?»« Je ne peux pas vous en dire plus que je vous ai dit. Je reviendrai le voir tous les jours et lui donnerai des calmants. Surveillez ce qu'il prend et dites-moi ses habitudes. À demain, monsieur. » Et il sort. Après une semaine de traitement, Guillaume se sent mieux. Ou, en tout cas, il peut se lever et donner l'illusion qu'il est rétabli. Ce qu'il souhaite, c'est pouvoir retourner le plus vite possible chez Jean pour fumer de l'opium. Le docteur, par respect ou ignorance, n'en a rien dit à la famille. Les parents croient qu'il a eu une fatigue nerveuse. Une fois que son père le trouve rétabli, il le convoque à son bureau et lui dit
« Maintenant que tu es rétabli, je veux savoir ce que tu comptes faire. »
Guillaume fait celui qui ne comprend pas. Son père lui dit
« Oui, tu comptes reprendre tes études, prendre un emploi. »
« Je n'ai pas changé d'avis, père. Je veux être écrivain. »
Le père soupire.
Ce n'est pas un métier. Tu peux à la rigueur écrire en dehors de tes heures de travail.
Mais écrivain, c'est quelque chose de sérieux. C'est trop prenant. On ne peut rien faire d'autre.
Et comment font les autres? Regarde, il y a des gens qui font de la politique et écrivent, comme Napoléon. Tu pourrais en faire autant.
Mes pères, il y a écrivain et écrivain. Le père agacé ouvre un cahier et lui dit
« J'ai assez discuté avec toi. Si tu ne reprends pas les études, je te supprime ta pension. Allez maintenant, laisse-moi. »
Et Guillaume quitte la pièce. Et court chez Jean. Jean lui a ouvert. Il est en kimono bleu roi, le fait entrer et ferme la porte.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la 5e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, c'est...